radiovostok.ch.
Le studio se remplit pour parler de Free to Run, le dernier documentaire du réalisateur genevois Pierre Morat, qui sort aujourd'hui sur les écrans romans. Son film, qui retrace l'histoire du running, parle aussi beaucoup de l'évolution des mœurs de ces 30 dernières années. Pierre Morat nous fait le plaisir d'être notre invité du jour et Chris est là pour tenir la cadence.
Alors bonjour Pierre Morat.
Bonjour.
Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Je vais le dire d'emblée, comme ça ce sera fait. J'ai beaucoup aimé votre film. Je me suis absolument pas renseignée avant de le regarder, donc je ne savais pas à quoi m'attendre et franchement j'ai été soufflée. Résumer votre film en disant que c'est un film qui raconte l'histoire du running, c'est juste, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. C'est un film qui parle de notre société et de son évolution, mais on parle pas non plus que de la conquête du bitume par la basket. On parle de plein d'autres choses. C'est un film aussi qui nous instruit, qui nous émeut, qui fait rire et qui présente des personnages très attachants. C'est pionnier qui ont rendu possible la pratique officielle, on va dire, du running. Alors Pierre Morat, à part être réalisateur, vous êtes historien du sport, ancien athlète de haut niveau. J'ai lu que Free to Run, vous a pris 7 ans à réaliser, 18 mois de tournage, autant de montage, beaucoup d'archives magnifiques d'ailleurs, ça fait plaisir d'avoir des images aussi jolies. Comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui après autant de travail, le jour où son film sort en Suisse?
Personnellement, je me sens assez serein. Et je vais vous dire quelle est mon explication de cette sérénité, parce que j'ai essayé d'y réfléchir et finalement tout au long du processus, en tout cas dans sa deuxième partie, même si j'ai des fois dû me battre pour obtenir certaines choses, la musique en particulier, j'étais assez serein parce que j'ai eu une chance inouïe en tant que réalisateur, surtout sur un projet lourd qui a impliqué 250 personnes et un gros budget pour un documentaire. J'ai eu la chance et j'ai le sentiment aujourd'hui d'avoir eu la chance d'avoir fait le film que je voulais au début. Au départ. Et ça, ça me comble. Au-delà même du succès, au-delà même des retombées qui s'annoncent assez chouettes et qui sont déjà assez chouettes, le fait d'avoir le sentiment de plénitude lié au fait que dès le départ, à l'époque où c'était hyper embryonnaire, j'avais cette idée, j'avais un modèle d'ailleurs de film avec Inside Deep Throat qui était un documentaire à l'intérieur de Gauche Profonde sur le premier film porno à succès aux États-Unis qui a été un véritable enjeu de société aussi, un peu comme le running à l'époque par rapport aux conservateurs et aux libéraux, etc. Et qui était un film génial, drôle, émouvant, avec une super musique et tout. Et j'avais ce modèle en tête de faire un peu avec Free to Run, avec cette histoire, un peu la même chose. Et finalement, enfin, m'inspirer de ça, et finalement, j'ai pu le faire. Donc c'est génial. Et pense que les gens qui aiment le film, ils ressentent aussi cette fraîcheur. Et aujourd'hui, je suis assez serein, et le film m'appartient plus, d'une certaine manière.
Voilà, c'est ça. Mais vous saviez donc depuis le début que vous teniez de l'or en barre, quelque part?
Non, pas vraiment.
Non.
Je savais depuis le début que forcément le sujet était porteur. Médiatiquement parlant, il était porteur, la course à pied, même si le projet a commencé à un moment où c'était pas encore un si grand succès. En tout cas, sur le plan médiatique, la manière dont c'est utilisé médiatiquement, ça fait vendre des médias, vendre du papier. La course à pied, c'était pas encore ça.
Donc il y a 7 ans en arrière.
Il y a 7 ans en arrière et même avant, quand le projet est né dans ma tête. 7 ans, c'est le début véritablement du processus de construction, de développement du film. Et donc, non, Laurent Barre, non. Et je pense que c'est pour ça que le film plaît, c'est parce que il s'enracine pas sur un désir de chercher à faire quelque chose sur quelque chose qui a du succès. Il s'enracine sur une véritable rage personnelle, des choses à dire, des choses qui concernent la société mais qui finalement me concernent moi, qui sont un vrai chemin d'introspection et que j'essaye de dire et que j'ai dit et que j'ai développé et que j'ai, pour lesquels je me suis battu avec mes tripes à la Préfontaine, vous vous rappelez Préfontaine?
Oui, bien sûr. Ouais. Complètement, mais vous parliez de rage, il en faut, vous dites, tout au départ, vous disiez que vous avez donc pu faire le film que vous vouliez et qu'il a fallu vous battre. Ce tempérament d'athlète, vous croyez qu'il faut l'avoir à un moment donné ou vous auriez pu arriver à vos fins en étant peut-être un peu moins rageur? Comment ça se manifeste quand en plus de ça, on est athlète comme ça?
C'est la première fois dans les interviews en lien avec Free to Run qu'on fait cette analogie et je pense que c'est très pertinent. Parce que moi je dis toujours que J'ai été athlète de haut niveau, j'ai pas pu aller aux Jeux Olympiques parce que j'ai eu des graves blessures au tendon d'Achille. Je sombrais un peu dans la dépression. Le cinéma m'a sauvé parce que finalement, c'était un nouveau défi après l'échec, ce que je ressentais comme un échec. Mais au jour d'aujourd'hui, et depuis que je fais du cinéma et depuis que j'ai ma vie post-carrière, j'ai le sentiment que au-delà même du but qui n'a pas été atteint, aller aux Jeux Olympiques, le chemin pour tenter d'y arriver et les qualités que ça a développées, une forme de pugnacité aussi que ça a développé en moi, me sert énormément dans ma vie de tous les jours. Et ma vie professionnelle et ma vie de cinéaste aussi. C'est dur le cinéma. Mm-hmm. Quand je dis 7 ans, c'est pas un chiffre en l'air, c'est vraiment un combat pour convaincre des gens de vous aider sur ce projet, de financer le projet, etc., etc., etc. Se battre pour défendre certaines séquences, se battre avec un budget, etc., etc. Et donc, les qualités que j'ai pu développer ou que j'aide certaines personnes que j'entraîne aujourd'hui à développer sont essentielles. Donc effectivement, c'est un vrai parcours de sportif.
Quand vous dites des personnes que vous aidez à... Donc des jeunes cinéastes en devenir...
Jeunes athlètes. Je coache des populaires, ouais. Mais je coache aussi des jeunes athlètes de 14-15 ans qui sont des espoirs olympiques.
Ok, d'accord.
Pierre Morat, vous n'êtes pas venu au studio les mains vides. Vous avez amené des morceaux avec vous. Mm-hmm. On va faire une petite pause musicale. Vous avez choisi Polar. Pourquoi ?
Alors Polar est le co-compositeur de la musique du film. C'est un... À la base, vous le savez peut-être pas, mais c'est un coureur de très très bon niveau. Il a gagné plusieurs fois la course de l'escalade quand il était tout jeune. Il court encore beaucoup, il aime beaucoup la course. Et en fait, il a une âme de sportif aussi, avant d'être musicien ou en même temps. Et en fait, Polar a composé en fait ce qu'on appelle la partie score, c'est-à-dire les chansons du film. Et le morceau qu'on va écouter, qui s'appelle
I Want Your Soul,
parce qu'il y en a plusieurs dans le film, est une chanson de son dernier album, Empress. Et c'est une chanson que j'adore, que j'ai écoutée avant que l'album sorte, et que j'ai dit celle-là, je l'ai tout de suite vue par rapport à la séquence dans laquelle elle est. Et c'est un des trois moments les plus émotionnels du film, quand Fred Lebeau finit son marathon à 60 ans avec le cancer.
Une petite pause musicale avec Polar pour nous donner un avant-goût de la bande-son du film.
Spinning, I'm a bouncing ball. I start from here and take it all. Gravity,
plein dans l'émotion, nous sommes toujours en compagnie de Pierre Morat.
Oui, et donc je continue avec mon petit interrogatoire. Pierre, je voulais savoir ce que je crois assez réussi et remarquable par conséquent dans ton film, c'est que je pense que même quelqu'un qui ne pratique pas de sport du tout peut avoir un intérêt et passer plus d'une heure et demie à se dire en fait ce film il est vachement bien. Est-ce que tu avais dès le départ en tête l'audience à laquelle s'adressait l'histoire que tu voulais raconter?
Alors très honnêtement, j'espère que les gens qui ne s'intéressent pas particulièrement au sport vont faire la démarche d'aller le voir ou vont accepter d'aller le voir avec d'autres qui les emmènent, parce que finalement c'est une clé pour le succès du film aussi, au-delà du sport. Mais vraiment dès le départ il a été conçu, moi le sport m'intéresse comme miroir de la société, de la société globale, et dès le départ j'ai trouvé que cette histoire du running ces 40 dernières années, c'était le miroir parfait de mai 68 et de la révolution, de l'après mai 68, des années 70, des années 90, 80, 90, etc. Donc oui, moi ce qui m'intéressait à travers Free to Run, c'est de parler d'autre chose que le sport. Et d'ailleurs, les films de sport que je préfère, moi, c'est des films qui se servent du sport pour parler de toute autre chose.
D'accord. Et par rapport au casting, qui est absolument sublime, il y a des Américains, des Européens, on voit aussi le lien qui unit la Suisse, notamment à toute cette épopée, grâce à la revue Spiridon, qui est une revue suisse. Je voulais savoir si ce casting a été, s'est imposé comme une évidence, ou si tu t'es beaucoup cassé la tête pour savoir qui tu allais garder pour raconter cette histoire.
Pour être tout à fait honnête, j'avais 5 personnages principaux au départ, donc au montage j'en ai sacrifié un.
Okay.
Qui avait pourtant un rôle très important, hein, le créateur de Nike, l'entraîneur de Steve Préfontaine et l'inventeur du jogging, donc, enfin celui qu'il a exporté aux États-Unis, là où il s'est vraiment développé à travers le monde. Et les 4 autres, oui, très vite ça a été mes personnages, parce que Switzer incarne justement cette lutte des femmes, Fred Lobo incarne la folie de ce qu'est devenu le marathon de New York, qui est parti de 30 grenus qui couraient dans le Bronx le dimanche matin. Tamini incarne justement la mystique et la poétique de la course à pied, tout ce mouvement en lien avec, en prise avec les années 70.
Qui boit une bière à la fin de sa course.
Exactement, voilà. L'esprit Spiridon. Ouais. Et ça vient de l'Europe. Et puis Préfontaine est un personnage au charisme invraisemblable, et il a incarné justement la lutte pour l'autonomie des athlètes, en particulier l'autonomie financière. Et, et c'est vrai que j'aurais voulu lui donner une part plus importante dans le film, mais les équilibres un peu de dramatique et dramaturgique plutôt ont fait qu'il a peut-être une plus petite part, mais il est au cœur et il marque beaucoup les gens.
Tout à fait. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont refusé de participer? Il y a une des athlètes qui est très discrète, la première marathonienne qui a gagné aux Jeux Olympiques par exemple. Est-ce qu'elle, t'aurais voulu la voir ou ça s'est pas présenté?
Je devais la rencontrer dans le cadre du marathon de New York. Il y a eu un misunderstanding au niveau du rendez-vous entre la prod et moi, et ce qui fait qu'on l'a raté. En plus, c'était le dernier jour de tournage. Mais finalement, c'est pas un gros sacrifice, parce qu'on la voit beaucoup en action, et je sais pas si je l'aurais gardé au montage. Il y a pas mal de gens que j'ai interviewé que j'ai pas gardé au montage. Ouais. Hein, on a interviewé quand même 60 personnes.
Il y a la Suissesse aussi qui
finit la Suissesse qui habite à Boulder au Colorado. C'était aussi pour des questions de frais.
D'accord.
Je pense que le destin de Catherine Switzer incarne toute l'histoire de la femme et du marathon, et c'était surtout à travers ses mots et à travers les images d'archives que je voulais transcrire cette histoire-là.
Donc ton film il s'ouvre avec cette question liée au féminisme, en fait. C'est une des qualités du film, il y en a d'autres, il y a d'autres combats aussi qui sont mis en avant. On apprend donc que c'était interdit pour les femmes de courir pendant très longtemps. Il y a même à un moment donné une image d'un médecin totalement hallucinant, preuve à l'appui, qui explique que c'est dangereux pour la santé, que l'utérus risque de tomber si les femmes courent plus que 1800 mètres. Enfin, c'est complètement aberrant. On se marre. Ça fait partie d'une autre nouvelle qualité du film. Donc la femme, elle s'est libérée d'un certain carcan grâce à ce sport. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que le sport a encore ce pouvoir-là? Et si oui, est-ce que tu penses à un sport en particulier?
Moi je pense qu'effectivement le sport a encore des pouvoirs, même si on peut penser que tous les combats ont été gagnés en matière de course à pied, par rapport en particulier aux droits des femmes. Mais je pense que si on se réfère simplement à des pays où la position de la femme est encore très problématique. Je pense que le sport, en particulier le sport populaire, la libération individuelle, intrinsèque que peut générer le fait de se mettre à courir pour soi, pour beaucoup de femmes, peut renverser des montagnes, j'en suis persuadé, en particulier dans les pays musulmans. Et je pense qu'il y a des choses auxquelles on va assister, parce que le mouvement du running, le mouvement du running pour soi, pour sa santé, pour son plaisir, est quelque chose qui se diffuse partout à travers le monde, y compris dans les pays en voie de développement. Et je pense que ça, spécifiquement dans ce sport, dans certains pays où la femme a encore beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, ça peut casser certaines barrières.
D'accord.
Donc le film sort aujourd'hui, tu te réjouis de récolter les impressions du public ?
Ouais, alors ça fait déjà une semaine que je suis en tournée d'avant-première, donc j'en ai déjà réuni et récolté pas mal, et c'est très émotionnel. Le lien est vraiment super et je suis très... Ouais, c'est des moments très, très... C'est pour ça qu'on fait aussi des films.
Petite dernière question, Pierre, je voulais savoir, donc toutes tes réalisations tournées autour du sport ?
Pas toutes. Non,
pas
mon précédent film Chronique d'une mort oubliée était lié à un fait divers qui a eu lieu juste à côté.
Okay,
mais mes prochains films, c'était voilà. Un peu la question. Alors, ça va être un grand virage parce que déjà je vais passer à la fiction, en fait.
D'accord, ouais. Ok. Donc une histoire.
Avec deux histoires, l'une en lien avec le sport et l'autre pas du tout.
Ok, d'accord, ben voilà. On voulait savoir un peu pour nous teaser pour la suite de tes aventures.
On tiendra au courant Radio Voice, c'est très sympa.
Merci.
Ton deuxième choix musical, c'est de Radio Dipped. Petite remarque pour clore cette interview.
Alors, pour moi, c'est la musique pour laquelle je me suis le plus battu dans le film. J'adore cette musique, j'adore ce groupe que j'ai découvert dans le Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Et en fait, c'est pour moi l'incarnation de la mystique du running. Les images qui vont avec dans le film incarnent vraiment ce côté mystique, ce côté évasion.
Très bien, merci beaucoup Pierre Morat d'avoir répondu à nos questions. On écoute, pour terminer cette interview, Strange Things Will Happen.
radiovostok.ch.